Aujourd'hui, on accueille Monique Selim, qui est directrice de recherche à l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, anciennement Orstom. Bref, le temps béni des colonies, comme disent certains. Il m'a rarement été donné de présenter quelqu'un qui soit si éloigné que ne l'est Monique de la... comment dire, du champ étroit et pointu de recherche. Non seulement elle a voyagé dans toute une série de pays, j'ai peur d'en oublier, hein, mais si je cite de mémoire Laos, Bangladesh, Ouzbékistan, Chine, j'en oublie probablement, j'ai dit Vietnam, bon, Vietnam, etc., Tu compléteras si j'en oublie, je pense que j'en oublie. Mais en plus, les champs d'investigation de Monique Selim sont infiniment variés, même s'il y a quand même quelques axes de structuration. Les axes de structuration principaux, c'est les inégalités sociales, le genre, le multiculturalisme transnational... la critique du capitalisme, j'en oublie peut-être aussi, mais là aussi il y a une variabilité assez extraordinaire. Moi j'aime bien les gens qui ne sont pas étroitement cantonnés à un objet de recherche pointu, je préfère toujours les objets plus ronds, voilà, on va dire, que les objets pointus et plus englobants, plus synthétiques. Et donc aujourd'hui, Monique, nous t'accueillons pour parler d'anthropologie critique. Ici, on aime bien l'anthropologie, on aime bien la critique sociale. Donc, il y a quelques étudiants ici et quelques collègues qui sont très, soit sur l'anthropologie, soit sur la critique sociale, soit sur les deux champs. Donc, tu vas être écouté et critiqué avec attention. Si j'ai oublié quelque chose, tu n'hésites pas.
Est-ce que je peux compléter la présentation ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié.
Non, parce que tu m'as présenté de manière un peu chaotique.
Et j'ai oublié de dire qu'elle est... Non. Elle a quand même des axes de structuration.
Et je vais les repréciser.
Et j'ai oublié de dire, oui, il vaut mieux que tu les reprécises, qu'elle est membre aussi de 4 comités. Je pensais 3, mais en fait, c'est 4, en ajoutant Chimère. Le journal des anthropologues, L'homme et la société, où nous nous fréquentons de temps en temps, et Chimère et Multitude. C'est une femme qui est extrêmement travailleuse et dynamique, et comme vous allez l'entendre, et qui ne mâche pas ses mots.
Bon, non, juste pour revenir sur la présentation, en fait, mon itinéraire est au contraire extrêmement structuré, c'est-à-dire avec une première période donc sur la France, de travaux anthropologiques sur la France, anthropologie rurale et anthropologie urbaine, une deuxième période, première période qui a duré 10 ans, une deuxième période qui a duré 20 ans, qui est sur le travail. C'est-à-dire entreprises et différents types d'entreprises, et une troisième période qui est la période actuelle, qui est beaucoup plus sur la globalisation et les idéologies centrales de la globalisation, dont le genre. Et les différents pays sur lesquels j'ai travaillé, donc tu les as cités, mais tu avais oublié la France, et c'est effectivement Bangladesh, Laos, Vietnam et Chine, c'est-à-dire 3 pays, c'est encore un axe de structuration, 3 pays donc qui sont gouvernés par des États partis communistes, et qui tous les 3, avec le modèle chinois, sont passés au capitalisme, à une ouverture au marché et au capitalisme, et puis l'Ouzbékistan, qui est effectivement une dictature... anciennement communiste et actuellement extrêmement sombre. Donc voilà. Et c'est des terrains que je reparcours régulièrement à partir de différents angles d'attaque.
Et j'ai oublié évidemment de souligner que l'aspect sociologie et anthropologie du genre et des inégalités en matière de genre, c'est un des axes les plus structurants
actuel,
de ton travail.
Ouais. Actuel,
donc
voilà.
Écoute, tu as
la parole. Et j'appartiens donc au CESMA, qui est un centre de recherche sur les mondes asiatiques africain et américain de l'Université de Paris 7 en association avec l'IRD et avec l'INALCO. Donc c'est facile de retrouver une bibliographie sur le site du CESMA. Très rapidement, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est à l'invite de Salvador, où effectivement on avait évoqué cette thématique que j'ai pris de manière très rigoureuse, qui est l'anthropologie critique à l'ère de la globalisation. Alors je l'ai pris de front. D'une manière je balayerai un tout petit peu le terrain de la critique, mais en fait je reviendrai ensuite très clairement sur l'orientation que je donne à cette thématique d'anthropologie critique, puisque je dirige une collection qui s'appelle Anthropologie critique, qui est aux éditions L'Harmattan et que nous avions fondée en 1998 avec Gérard Altab, qui était donc directeur d'études à l'EHESS et spécialiste de Madagascar, et ensuite initiateur, en fait, de l'anthropologie urbaine à partir de l'EHESS, à une époque où l'anthropologie ne se concevait que comme exotique, c'est-à-dire en gros à la fin, au milieu, à la fin des années 70. Donc, d'abord, quelques rappels sur la notion de critique, puisque c'est une notion qui est bien ancrée dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire des sciences sociales, que ça soit avec la critique de la raison pure de Kant, la critique de la philosophie du droit de Marx, de la raison instrumentale de l'école de Francfort, de la raison dialectique de Sartre. Donc, la critique dessine un espace intellectuel dans lequel a pris pied une et plusieurs courants de sociologie critique. On cite le plus souvent Bourdieu, mais beaucoup de gens se rangeraient aujourd'hui dans cet espace intellectuel de la critique en sociologie. En anthropologie, c'est beaucoup plus difficile de circonscrire des courants critiques qui soient relativement précis au plan théorique. La notion de critique, en fait, en anthropologie, est actuellement adjointe à des champs spécifiques, qu'il s'agisse, j'en donne quelques exemples, anthropologie critique de l'action ou de l'aide humanitaire, Laetitia Atlani à l'EHESS, anthropologie critique de l'État, Ben Guissa aussi à l'EHESS, ou encore anthropologie critique de la pauvreté, Agier encore à l'EHESS, mais donc des champs très précis et donc une extrême polysémie, une extrême mollesse en fait de la notion de critique en anthropologie, qui en fait s'affranchit des courants intellectuels répertoriés comme critique et tentent par différentes voies de poser une critique de l'anthropologie, non générale, mais plutôt spécifique à différents domaines. Je ne reviendrai pas en fait sur les grandes transformations, par contre, critiques de l'anthropologie qui ont eu lieu dans les 40-50 dernières années et qui, de mon point de vue, sont des transformations intellectuelles acquises. Mais on pourra éventuellement revenir dans la discussion sur ces transformations. Mais c'est premièrement la fin de l'exotisme, soit la fin de la dévotion de l'anthropologie aux sociétés de l'altérité, aux sociétés lointaines, aux sociétés rurales, aux sociétés dites de communauté. Et dans la mesure, je ne reviendrai pas là-dessus, dans la mesure où aujourd'hui l'anthropologie est délibérément urbaine et prend tous les objets et tous les champs disponibles, dont le numérique. Avec énormément de problèmes méthodologiques et épistémologiques, mais néanmoins s'attache à tous les objets. Deuxième point sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui fait partie aussi de cet héritage critique des 50 dernières années en anthropologie, c'est l'appréhension essentielle du rôle de l'anthropologue dans la construction de la connaissance, à savoir sa position, ses émotions, son parti pris, ses collaborations, restitutions, militantisme, biais, enfin tous les noms qu'on peut donner à ces différentes inflexions de la connaissance et de la production de la connaissance, et en fait qui constituent globalement ce qu'on peut appeler des matrices de réflexivité qui ont été initiées en anthropologie. Je parle stricto sensu de ma discipline, pas du tout de la sociologie, mais en anthropologie, donc qui ont été initiées depuis plus de 30 ans et qui sont en général totalement pensées dans la méthodologie spécifique à l'anthropologie, qui est donc une méthodologie d'accès direct au terrain. Donc, à mon avis, ces deux points sont un béaba des étudiants en anthropologie aujourd'hui, avec toutes les variantes qu'on peut imaginer, entre des pôles épistémologiques plus ou moins contrastés, c'est-à-dire d'un côté un pôle épistémologique qui serait, qu'on pourrait critiquer, entre guillemets, comme narcissique et égotiste, et puis des pôles épistémologiques qui, effectivement, seraient beaucoup plus axés sur les conditions de production de la connaissance. Alors, sur ce point aussi, hein, la sociologie a beaucoup évolué. Elle a beaucoup emprunté aux méthodologies, par définition, qualitatives et microsociales de l'anthropologie. Et on peut dire que, d'une certaine manière, les frontières disciplinaires se sont un peu estompées, dans la mesure en particulier où la notion d'ethnographie est devenue une notion qui est utilisée par tout un nombre de sciences sociales, qu'il s'agisse des sociologues, mais aussi des gens du management, de la gestion, etc. Et donc cette notion a migré comme une sorte de passeur l'anthropologie. Donc ça, c'est des choses que je considère comme acquises, dans le bilan de l'anthropologie critique. Et en revanche, une notion qui a eu beaucoup plus de mal à franchir les frontières de la discipline anthropologique, c'est celle de la globalisation, qui a été de fait intégrée extrêmement tardivement en anthropologie. Et là, je ne parle bien sûr que de l'anthropologie française. Donc intégrée très tardivement, on peut dire dans les 10 dernières années, puisque, je veux dire, le grand problème de l'anthropologie, c'est effectivement d'être resté largement rivé à une dévotion microsociale, comme effectivement si cette dévotion microsociale devait exclure la globalisation du monde, qui, elle, avait été largement conçue depuis les années 90, aux USA, par les anthropologues, qui avaient largement aussi jonglé avec un certain nombre de notions locales, globales, aboutissant à glocal, etc., et à toutes les fantaisies langagières, tous les éléments de langage fantaisie, ce qu'on peut imaginer à partir de là. J'appartiens à l'Association française des anthropologues, qui d'une certaine manière peut être considérée comme à l'avant-garde des mutations anthropologiques, qui pour cela a été longtemps en quelque sorte honnie par les gens qui se réclamaient comme les plus académiques et les plus conservateurs de la discipline. Et juste, je signale ça de manière anecdotique, même à l'Association française des anthropologues, il avait fallu se battre, en fait, pour promouvoir, au début des années 2000, à la fin des années 90, promouvoir deux numéros du journal des anthropologues, donc qui prenaient de plein pied la globalisation. Donc ça, on trouve ces numéros, le premier était consacré aux migrations et le second était consacré aux religieux, et on le trouve facilement sur Percé, puisque tout le journal des anthropologues est sur Percé. Alors maintenant, la globalisation est affichée dans plusieurs séminaires d'anthropologues à l'OHESS, qu'il s'agisse d'Abélès avec Anthropologie de la globalisation, de Laurent Berger avec Ethnographie globale de la mondialisation, enfin de Bernard Rours et moi-même qui avions, je crois, été le premier à l'OHESS séminaire à s'appeler Anthropologie politique de la globalisation, donc à partir des années, séminaire qui avait commencé en 2000. Donc ce paysage étant sabré au couteau, bref survol, je vais en venir maintenant à ma propre conception de ce qui me paraît pouvoir être ou devoir être une anthropologie critique en situation de globalisation, pour reprendre le terme sartrien de situation qui avait été appliqué par Balandier à la situation coloniale, Balandier dont vous le savez qui vient de mourir. Et je développerai mon argumentaire autour de trois moments. Premièrement, une anthropologie globale du présent, deuxièmement, une anthropologie politique, et troisièmement, une anthropologie clinique. Donc, premièrement, une anthropologie globale du présent. De mon point de vue, l'enjeu principal de l'anthropologie critique réside dans cette tension permanente entre, d'un côté, penser les logiques singulières d'acteurs individuels et d'acteurs collectifs qui sont appréhendés dans un champ social construit en objet, et de l'autre, appréhender le cadre désormais globalisé par la numérisation du monde de la production de ces logiques singulières. Ce qui, me semble-t-il, suppose, premièrement, une critique des formes actuelles du capitalisme, deuxièmement, une critique de leurs effets sur les concepts et les façons de les penser, et troisièmement, une critique des nouveaux régimes de production des subjectivités et de la vérité existentielle des acteurs. Donc je vais revenir brièvement sur ces trois premiers moments. Donc les nouvelles formes du capitalisme actuel, la critique doit être portée, à mon avis, sur deux points centraux. Le premier point, c'est une financiarisation généralisée qui s'inscrit bien évidemment au niveau macroéconomique, mais ça c'est une banalité, mais qui pénètre les unités domestiques, en particulier à travers le microcrédit. Je renvoie là aux travaux d'Isabelle Guérin, qui est ma collègue à l'IRD. Deuxièmement, une numérisation elle-même généralisée du monde, qui est, à travers les algorithmes, l'outil essentiel de la financiarisation objective, mais qui, dans le même moment, et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus dans une perspective anthropologique, mais qui est donc, dans le même moment, l'instrument fondamental de l'adhésion des sujets au fonctionnement socio-économique présent. C'est pourquoi les termes de biofinanciarisation, de bionumérisation peuvent être forgés pour désigner donc une nouvelle complexité des phénomènes présents, dont une des caractéristiques principales est d'impliquer de façon maximale les individus dans leur développement. Alors là, je citerai aussi Yves Citon, qui parle, lui, d'économie de l'attention. En fait, l'attention des acteurs est devenue une ressource déterminante de l'accumulation capitaliste. Les subjectivités, leur mobilisation sont maintenant un ressort inesquivable de la financiarisation globale. Et je crois que c'est cette transformation majeure du monde présent qui convoque plus que d'autres disciplines l'anthropologie. Pourquoi ? Parce que l'anthropologie, de part, a une méthodologie spécifique, d'attention aux individus, d'accès direct à leurs élaborations personnelles et collectives. Et donc l'anthropologue se trouve, face à ces nouvelles transformations, confronté à un dilemme inédit où, actuellement, gît la singularité sociale des acteurs si, effectivement, leur mode de production dans les régions les plus reculées convoque les processus de globalisation. C'est là une des questions épistémologiques essentielles pour l'anthropologue. Donc, face à cette question, c'est pourquoi, à un deuxième niveau, de mon point de vue encore, la critique doit s'exercer sur les concepts et les modes de pensée, ces transformations qui sont essentielles. Les sciences sociales sont, comme toutes les productions intellectuelles, à replacer, bien sûr, et on en parlait à table avec Antonio, à replacer dans le cadre des transformations en cours, sans pour autant, bien sûr, devoir être pensées comme un reflet de cette transformation. Néanmoins, les mutations conceptuelles en jeu actuellement, l'abandon relatif de certains concepts, l'engouement pour de nouveaux concepts désigne des efforts pour s'ajuster au changement tout en, et je crois que là c'est quelque chose sur lequel il faut insister, tout en portant ces changements dans leur contenu propre. Donc je vais juste donner quelques exemples de ces transformations, de ces mutations conceptuelles qui me paraissent, on pourrait en trouver énormément d'autres, mais de ces mutations conceptuelles qui me paraissent poser des problèmes d'interprétation en regard de la saisie du réel, terme évidemment toujours de plus en plus fuyant, un réel qui fuit, puisque effectivement ce réel est de plus en plus défini par un enchevêtrement de subjectivités globalisées et de globalisations qui sont elles-mêmes incorporées. Donc, quelques exemples de ces mutations conceptuelles. Premier exemple que je vais prendre, c'est le concept de domination qui a été largement supplanté par celui de discrimination, actuellement en anthropologie comme dans toutes les sciences sociales. cette mutation, cette nouvelle prééminence hein, de la notion, du concept de discrimination, traduit à sa façon, de manière à mon avis très problématique, la transformation d'ordres verticaux par des ordonnancements qui désormais sont des ordonnancements impliqués où les objectifs et la discipline du social au sens large sont intériorisés par les acteurs. Les discriminations affectent les individus dans leur être intime. Les discriminations appellent des réparations là où la domination s'exerçait comme une extériorité imposante et supposait son renversement. On a donc, à travers ce passage hein, de la domination à la discrimination, je veux dire le contenu d'une transformation sociale, économique et politique essentielle. Et cette mutation conceptuelle l'exprime à sa manière. La question est de savoir si cette manière est effectivement pertinente en termes épistémologiques. À partir de cette mutation conceptuelle que je considère comme exemplaire de la domination à la discrimination, on peut effectivement dérouler une chaîne d'autres mutations conceptuelles qui en découlent, dont celle, bien évidemment, qui fait désormais prévaloir l'identité sur le statut. C'est banal de dire que le statut conféré par le travail supposait des hiérarchies qui étaient fixées par le capital et l'exploitation. Et tout cela est un monde disparu, non seulement d'une certaine manière conceptuelle, mais aussi un monde largement disparu de manière objective. Les sciences sociales et l'anthropologie en premier, par sa dévotion à l'altérité, ont été frappés par l'envahissement du concept d'identité depuis plus de 30 ans. Là, je vous renverrai donc au numéro de l'homme et la société, qui est celui de la mode des identités, que là encore on trouve surpercé et qui date donc d'une trentaine d'années, qui avait été dirigé par René Galissot. Et on voit bien en fait que cette appétence conceptuelle pour l'identité est de plus en plus forte, et surtout qu'elle est depuis cette période, et surtout qu'elle se situe exactement à la mesure des processus d'identitarisation, hein, qui renvoient les sujets à leur origine, à leur appartenance supposée, et qui en fait recréer en permanence ses origines et ses appartenances. Mais le problème conceptuel et le problème épistémologique qui est ici posé est est-ce que le décalque entre processus sociaux et métamorphose conceptuelle, est-ce que ce décalque est ou non heuristique? Est-ce qu'on peut considérer qu'il a une pertinence? Troisième exemple hein, que je vais donner de ces substitutions conceptuelles en cohérence avec les précédentes, c'est l'exaltation du concept de communauté, aux dépens bien sûr de celui de société, qui colle exactement aux lectures des politiques comme des acteurs, comme si on était dans un monde en écho, aux phénomènes qui sont eux-mêmes en écho, aux phénomènes qui sont eux-mêmes appréhendés comme des phénomènes de communautarisation. Là où il y a eu avant tout enfermement des sujets dans des zones de ségrégation, regroupement par l'origine et assignation extérieure, provoquant la réincorporation du stigmate. Donc la société, à travers cette prééminence hein, de la communauté, on voit très bien un effacement du concept de société, alors que précisément ce concept de société et cette réalité de la société ont fonctionné comme mode de production de ces dites communautés, aussi bien au niveau conceptuel qu'au niveau donc des fonctionnements sociaux. Quatrième exemple, le genre. Hein, donc le genre, qui là encore a supplanté celui de sexe, puis a supplanté ceux de rapports sociaux de sexe, et le genre qui est donc devenu une notion fourre-tout, un concept, mais surtout une notion fourre-tout, et en fait où s'exprime de plus en plus fortement, hein, et j'y suis particulièrement attentive, travaillant sur les idéologies des sexuations, et des sexualités, où s'exprime donc de manière de plus en plus forte une confusion entre normes sexuelles prescrites par des sociétés et normes globales de genre qui, elles, constituent des instruments de gouvernance du monde présent. Je ne vais pas développer ce point, mais là-dessus, je peux renvoyer au livre que nous avons fait il y a peu de temps, en fait, je crois 2 ans maintenant, avec Anne Kerien, qui s'appelle « La libération des femmes, une plus-value mondiale », et qui est globalement un livre dans lequel nous développons l'hypothèse qu'à travers l'expansion idéologique et l'expansion conceptuelle du concept de genre, effectivement, on est dans des formes d'accompagnement du libéralisme et du capitalisme financiarisé. Hein. Ce qui, bien évidemment, n'est pas une invalidation, mais c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir dans le débat. Hein. Donc, j'ai choisi en fait ces 4 métamorphoses conceptuelles parce que, de mon point de vue, elles concernent le cœur de l'anthropologie et sont donc des lieux de passe où la critique doit être particulièrement vigilante. L'anthropologie, en étant historiquement dévolue à des mondes lointains supposés, hein, sauf bien évidemment pour l'anthropologie économique marxiste, mais l'anthropologie était dévolue a priori et dans ses débuts et dans largement son développement jusqu'aux années 70 à des mondes économiques hors du capitalisme. Et donc l'anthropologie s'est bâtie autour des concepts d'identité, de complémentarité, de communauté pardon, et de complémentarité sexuelle idéalisée, hors d'une domination qui, de fait, était refoulée vers la société dite moderne et vers la société dite anonyme par Lévi-Strauss lui-même, donc société de l'anthropologue, avec cette grande rupture entre ces autres donc, et nous qui les étudions. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Donc, ce qu'on voit, c'est que ces 4 lieux de passe intellectuels, conceptuels, identité, discrimination, communauté, genre, constituent le principal appareillage conceptuel minimum banalisé des sciences sociales, mais aussi des anthropologues qui les ont adoptés d'autant plus facilement qu'effectivement, l'histoire de l'anthropologie comme discipline la portait à une inclinaison particulièrement forte. Donc, je crois que d'un point de vue critique, hein, cet appareillage conceptuel est une réponse au processus de globalisation qui estompe les sociétés au profit de fabriques de communautés en nombre infini, dans la mesure où leur création démultipliée est portée par les acteurs discriminés en quête donc de réparation globalisée. Là encore, hein, je pourrais évoquer Zygmunt Bauman qui parlait de la liquidité des sociétés et de sociétés liquides. Mais plus précisément, je voudrais mettre l'accent sur le fait que la gestion de l'intimité, dont l'intimité sexuée, a été placée au centre de la gouvernance globale du capitalisme financiarisé par les instruments numériques. Les sujets trouvent en effet sur les nouveaux marchés symboliques, qui doublent les marchés économico-financiers, une foule d'identités qu'ils peuvent emprunter au gré de la mobilisation de leurs désirs et des opportunités, objectifs qui se présentent. Ces identités sont des identités fluides et sont les supports de fabrique de communautés ad hoc. Et ces processus d'identification et d'emboîtement de communautés s'engendrent par scissiparité comme autant de cases où en fait les sujets ont la possibilité donc de rentrer et de se placer. On est donc là dans une nouvelle configuration qui fait du sujet en fait un marché, mais qui fait aussi du sujet un marchand et une marchandise à lui tout seul. Le sujet, donc comme marché, marchand et marchandise à lui tout seul. Le sujet est donc par là même devenu un activiste du capitalisme global et ce qui va m'amener au troisième carrefour de la critique qu'à mon avis l'anthropologie doit mener. Donc troisième carrefour, c'est les nouveaux régimes de production des subjectivités. Comment penser et où penser la vérité existentielle des acteurs ? La question est fondamentale pour l'anthropologue, elle est fondamentale au plan épistémologique et elle est fondamentale au plan théorique. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'écoute a changé d'échelle, l'écoute de l'anthropologue a changé d'échelle, ou plutôt que l'écoute de l'anthropologue doit multiplier les échelles, c'est-à-dire se faire à la fois intime et globale. Je vais en donner deux exemples concrets pour essayer de donner un peu de chair à mon propos. Hein. Et je vais prendre donc deux exemples de terrain. Le premier, donc, en Chine. En Chine, aujourd'hui, comme dans de multiples pays, des financements internationaux, d'organisations internationales, d'ONG, de fondations, etc., sont ciblés sur la fabrique de groupes lesbiens comme nouvelle agente de la société civile locale et globale. Ces financements rencontrent l'enthousiasme des actrices. Et en Chine, j'ai pu observer en particulier comment cette offre devenait pour les jeunes femmes une opportunité exceptionnelle d'émancipation. Émancipation des normes en place, c'est-à-dire mariage, enfantement d'un fils, soins aux beaux-parents, soins aux maris, etc. Et donc l'enquête anthropologique que j'avais faite montrait dans les récits des jeunes filles, en fait, un centrage sur l'expérience d'une libération personnelle dont l'offre était immédiatement globalisée. Hein. Je veux dire, cette offre, les jeunes filles la trouvaient sur Internet et ensuite, cette offre était relayée par un certain nombre d'organisations qui arrivaient à se maintenir et à s'infiltrer donc de l'extérieur, principalement des États-Unis, vers la Chine. Donc l'activisme lesbien des jeunes filles chinoises doit être placé dans cette double généalogie. Hein. Une généalogie de contraintes de domination masculine particulièrement forte localement, qui laisse peu d'échappatoire, et une généalogie d'offre identitaire sur un marché global qui de surcroît paye, mais paye au sens propre du terme, et paye pas simplement au sens symbolique. Quand je dis paye, je veux dire qu'il y a des financements à la clé pour des jeunes filles. Dès qu'elles se trouvent à deux ou trois, on peut effectivement leur donner un financement. Elles peuvent fonder des ONG, elles peuvent aller dans des formations pour apprendre à créer des ONG, etc. Enfin, il y a tout un nombre de dispositifs qui se retrouvent à leur portée et qui donnent donc des moyens financiers d'action politique. Hein. Donc, un tel exemple, hein, je l'ai cité, mais je pourrais en citer d'autres, questionne l'authenticité existentielle. Hein. Cette authenticité existentielle s'inscrit alors comme un flux mouvant qui se ressource en permanence dans le monde extérieur, mais qui, de fait, se conforte en permanence aussi dans le monde intérieur. J'ai cité la Chine, mais j'ai vu en embryonnage au mois de juillet, puisque j'étais effectivement en mission au Laos et au Vietnam. Au Vietnam, j'ai vu exactement le même type de dispositif se mettre en place, c'est-à-dire des financements extérieurs, principalement américains ou éventuellement australiens, britanniques, etc., qui proposent à des femmes de les financer pour mobiliser donc des groupes lesbiens, pouvoir faire des manifestations, aller dans des formations, etc. Alors, on pourrait aussi, hein, tout aussi bien prendre des exemples de conversion. Deuxième exemple que je donne, sur lequel j'ai absolument pas travaillé personnellement, mais enfin, je veux dire, sur lequel l'ensemble de nous tous sommes documentés, je dirais même hyper documentés, c'est les exemples de conversion à l'islamisme, hein, de jeunes femmes en France, aux USA, au Canada, qui sont très bien étudiés par les anthropologues. Il y a actuellement, dans la littérature française, hein, 4 ou 5 livres excellents, de mon point de vue. Et là encore, ce qu'on voit, c'est que le message islamique est global, saisissable sur le web, où une communication interpersonnelle va s'enclencher. Là encore, la conversion est intime et touche à la construction de l'identité sexuée de l'actrice. Et là encore, il y a immédiatement fabrique d'une communauté, entre guillemets, qui se veut émancipatrice des contraintes sociétales subies et qui offre au sujet non seulement un idéal global, mais aussi un idéal de soi. De ce point de vue, on peut considérer que les féminismes islamiques sont bien évidemment un pur produit de la globalisation, tout comme les plateaux LGBT, sans oublier, bien sûr, les revendications des nouvelles communautés LGBT islamiques. et l'ensemble de ces revendications doivent être appréhendées par l'anthropologue comme des champs où en fait se cristallisent les nouvelles productions de subjectivité, qui sont donc en quête de lignes de fuite et en regard desquelles le vieux concept d'aliénation perd tendanciellement de sa pertinence, à mon avis, car si le sujet devient autre, et ça, c'était effectivement le grand motif du concept d'aliénation, c'était le sujet devient autre, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'à travers ces nouveaux plateaux idéologiques globalisés, le sujet se libère, s'émancipe, et pense en particulier qu'il devient lui-même pour la première fois, et qu'il accède pour la première fois à sa propre vérité existentielle et subjective. Ce point est d'autant plus intéressant quand on regarde ce qui se joue pour les femmes, hein, puisque ce qu'on voit en particulier, c'est que la conversion d'anciens traits aliénants en redécouverte de soi confère au processus une complexité aiguë. Alors, qu'est-ce que je pense par les anciens traits aliénants? C'est ceux qu'on décrivait comme aliénants. Après, c'est une question d'adhésion ou de non-adhésion. Mais ces anciens traits étaient donc ce qu'on appelait les anciennes valeurs, maternité, retour au foyer, care exclusif, etc. Et l'ensemble de ces anciens traits, effectivement décrits comme aliénants, sont aujourd'hui l'objet de deux processus qui sont, si on les observe, des processus conjoints au niveau global. On assiste en effet d'un côté à des logiques de retraditionnalisation forcée. Là, je pense en particulier à l'Ouzbékistan, où j'ai travaillé donc sur les anciens chercheurs, les chercheurs plutôt des anciennes académies des sciences de l'époque soviétique. Donc retraditionnalisation forcée des femmes. Mais tout aussi intéressant, on assiste à un autre processus qui est celui d'une retraditionnalisation volontaire dont les modèles se trouvent là encore déposés dans des hypermarchés idéologiques globalisés. Et ces retraditionnalisations volontaires ne peuvent pas être saisies simplement à travers le concept d'aliénation, mais doivent être saisies effectivement comme un carrefour entre des flux globalisés et entre de nouvelles vérités existentielles qui peuvent être considérées comme des retours à la case départ, encore une fois, mon point de vue, qui est bien évidemment à discuter et qui est aussi un point de vue politique. Hein. J'en viens donc à la seconde partie de cet argumentaire sur une anthropologie critique en situation de globalisation. De mon point de vue, encore une fois, cette anthropologie critique en situation de globalisation doit être une anthropologie politique. Alors, une anthropologie politique qui ne boucle pas la critique des formes actuelles du capitalisme par des rationalisations hyperdéterminantes à la Bourdieu, qui ne laisse aucune expérience, aucune voie de sortie, aucune voie d'échappement. La tentation scientiste qui, à force de creuser les mécanismes de la domination, l'entérine et la légitime, est d'autant plus présente aujourd'hui, en fait, que depuis la fin de la bipartition politico-économique du monde, il semble n'y avoir plus d'alternatives au capitalisme financiarisé. La critique, donc, doit être politique, c'est-à-dire particulièrement attentive à l'ensemble des logiques de subversion et de transformation sociale. Et ce, d'autant plus que la globalisation numérique est une offre permanente de nouvelles voies d'autoconstruction de soi et d'édification de collectifs. Édification de collectifs, je pense aussi à tous les prêts à agir et les prêts à penser que, dans toutes les parties du monde dans lesquelles j'ai travaillé, les acteurs et les actrices trouvent donc sur le web. Deux concepts de ce point de vue me paraissent baliser les pôles entre lesquels peut se mouvoir une anthropologie critique et politique. Ces deux concepts sont ceux d'idéologie et d'imaginaire. Donc premièrement, il faut bien sûr bien repérer les nouveaux plateaux idéologiques et leurs supports financiers. Je dirais que c'est en quelque sorte un déblayage de tout terrain anthropologique, hein, au-delà du discours des acteurs, savoir effectivement qui paye les acteurs pour ce qu'ils font. Et d'autant plus que les gens sont de plus en plus nombreux à prétendre améliorer le monde, réparer les injustices, réparer les inégalités, transformer l'économie, etc. La mobilisation de ce point de vue, la mobilisation de la notion d'éthique est ici centrale, hein, qu'on pense à l'économie sociale et solidaire, au capitalisme éthique, au développement durable, à la préservation de l'environnement, de la nature, des animaux, etc., etc. L'éthique apparaît en fait un nouveau drapeau, un nouveau miroir de transformation qui serait des transformations douces et équitables. Là-dessus, je renverrai au numéro du journal des anthropologues que nous avons fait et qui s'appelait de manière très... On avait choisi ce titre de manière très volontaire, « Désir d'éthique ou besoin de normes ?» avec un point d'interrogation. Et donc, ces transformations douces et équitables, je veux dire, visent à donner au sujet le sentiment d'agir, de peser sur le monde, dont l'économie capitaliste serait un roc. Et de ce point de vue, le sujet se veut, bien sûr, éthique. Les plateaux idéologiques, ces plateaux idéologiques du capitalisme actuel, n'ont jamais été aussi miroitants de possibles infinis, de possibles fluides, ouvert avec une invite permanente à la coopération, à la collaboration, à l'implication. Là, je renverrai à Bowens hein, avec sa notion de peer-to-peer, d'égal à égal, pour subvertir le capitalisme numérique, subvertir le capitalisme numérique, les net data, donc pour réintroduire cette logique d'égalisation et de coopération des acteurs. Donc ces plateaux idéologiques, une fois déblayés, il faut bien considérer aussi qu'ils sont des offres d'imaginaires multiples où les acteurs peuvent puiser de nouvelles inspirations de transformation politique, bien au-delà de ce que les programmes et les prêts à penser ou les prêts à agir disponibles sur Internet peuvent prévoir. Ce qui, d'un point de vue anthropologique, est intéressant, ce sont les possibilités de déraillement, les failles, les imprévus, qui de fait sont innombrables et qui cassent, qui fracturent toutes les planifications idéologiques, autant aujourd'hui qu'hier, puisqu'effectivement, toutes les planifications idéologiques n'arrivent jamais à contenir les imaginaires, pas plus que le réel. Et ça, je crois que c'est une leçon que nous ont bien montré toutes les expériences dictatoriales des communismes, où malgré cette planification à la fois des plans C et des organisations, les gens s'échappaient dans de multiples lieux d'imaginaire. Donc, si l'anthropologie critique doit être une anthropologie politique, néanmoins, il faut définir comment elle peut être une anthropologie politique. Je dirais que là, de mon point de vue, l'anthropologue ne doit pas, ne peut pas devenir le militant subalterne du groupe qu'il étudie. Ce serait perdre l'ambition intellectuelle de retotalisation des champs micro et macro-sociaux qui est au cœur de la discipline. Si donc l'anthropologue est nécessairement un sujet politique, son investissement politique est hors champ lorsqu'il mène une investigation, plein champ lorsqu'il tente de penser le monde actuel. De mon point de vue, donc, une distance herméneutique, suspendant les adhésions et les inclinations, est indispensable pour saisir à la fois la singularité des logiques des sujets et, bien en même temps, l'ampleur des fonctionnements macroéconomiques et macropolitiques. Le fait que les États soient réduits au rôle de gestionnaire de crise accentue encore la distance critique de l'anthropologue face à la politique pour appréhender effectivement le politique dans ses développements nationaux et globalisés. J'en prendrai un seul exemple, hein, déjà abordé précédemment, qui est celui donc de ces financements internationaux, principalement américains, qui visent donc les groupes LGBT, qui visent à fabriquer des groupes LGBT, et je veux dire qui visent à les fabriquer selon des variantes diverses pour en particulier déstabiliser des dictatures. Très clairement, hein, En Chine, on voit que ces financements, donc, qui se présentent comme fabrique de communautés, entre guillemets, LGBT, sont intimement associés à la lutte pro-démocratique, en particulier dans le cas des jeunes lesbiennes, ce qui n'est pas le cas des jeunes gens homosexuels, qui, eux, ont déjà été intégrés dans les dispositifs de co-gouvernementalité de prévention du sida. Et corollairement, au-delà de l'exemple chinois, dans les pays en fait où l'islam est religion d'État, on voit très bien que les mêmes financements remettent en cause les gouvernements militaires dans leur dimension patriarcale et dans leur dimension politico-idéologique religieuse. Donc, appréhender les mobilisations politiques dans leur caractère à la fois préfabriqué au plan géopolitique, mais en même temps spontané au plan des représentations subjectives, me paraît une tâche essentielle de l'anthropologie critique. Il s'agit en fait de se tenir sur une crête entre normes globales et affranchissement subjectif, existentiel, affranchissement donc des acteurs, là où la sociologie démonte des mécanismes en extériorité, sans se demander pourquoi et comment les individus deviennent les porteurs enthousiastes de ces mécanismes eux-mêmes. Donc, du point de vue d'une anthropologie critique, le politique s'inscrit dans des signifiants subjectifs, et c'est ce décryptage des signifiants subjectifs du politique qui me paraît devoir être fait. Troisième et dernière partie, donc comment l'anthropologie critique en situation globalisée est aussi une anthropologie clinique.
Tu peux ralentir.
Non, mais je vais terminer.
T'as le temps.
Donc comment elle est aussi une anthropologie clinique. Donc sur le terrain, l'anthropologue noue des relations interpersonnelles qui sont intenses avec les acteurs. Ces acteurs, de fait, il devient un interlocuteur privilégié pour ces acteurs. Il devient un interlocuteur privilégié pour soutenir leur mode discursif d'élaboration d'eux-mêmes hors de leur groupe d'interconnaissance. Ces relations, les discours recueillis, les pratiques observées constituent un matériau qui implique l'anthropologue comme un acteur social, mais qui l'implique bien évidemment comme un sujet. De mon point de vue, et pour les différents terrains que j'ai faits, qui étaient beaucoup des terrains de défrichement dans des situations dictatoriales, si je regarde les différents pays où j'ai travaillé, en fait, quasiment tous étaient à l'ombre d'une dictature, quel que soit son caractère. Il est assez fréquent, donc, selon mon expérience dans ces terrains variés, que le cadre mis en place de l'investigation et de l'écoute provoque chez les acteurs des effondrements ponctuels. Donc, crise de larmes, retour à un flux de paroles non maîtrisé, etc. Je pourrais en donner de multiples exemples, qu'il s'agisse du Laos, du Bangladesh ou du Vietnam, ou encore de la Chine. Et ces situations, ces scènes m'ont poussé en fait à réfléchir de manière plus aiguë sur ce qui se jouait là. Bien au-delà, bien évidemment, de la dimension tragique de ces scènes où effectivement l'anthropologue se doit de soutenir la personne qu'il a en face de lui, de la soutenir dans la mesure où il lui a ouvert un espace de parole hors groupe d'interconnaissance et qu'il est là face à des retours brutaux du refoulé dont la dimension intime porte un éclairage fort sur les processus sociaux, économiques et politiques. Alors ce que je veux dire là, c'est que bien évidemment, l'anthropologue n'est pas un psychanalyste, il n'a aucune vocation à être un psychanalyste, mais en même temps, il ne peut pas ignorer la psychanalyse et se dérober lorsque, sur son invite, les masques sociaux ne sont plus tenables par les acteurs face à lui, dans la mesure où effectivement, il est un étranger, mais il est devenu un étranger intime, et c'est cette dimension d'étranger intime qui est le levier en fait du processus de production des connaissances qu'il a pour objet d'accomplir. Donc l'entretien et la relation anthropologique sont des parenthèses. Hein. On pourrait, de manière métonymique, les considérer comme des époquets husserliennes, des suspensions, des ordonnancements externes. Et bien évidemment, on pourrait aussi les mettre en écho avec des séances de psychanalyse, ce qui néanmoins, à mon avis, ne serait pas pertinent au plan conceptuel, dans la mesure où il y a une différence majeure qui est l'objectif, et que l'objectif de l'anthropologue doit rester extrêmement clair, et c'est celui d'une compréhension et non celui d'une transformation, qu'il s'agisse d'une transformation subjective ou d'une transformation objective. Quand j'entends transformation objective, le psychanalyste a effectivement en horizon une transformation thérapeutique subjective, et le militant a comme horizon une transformation politique objective. Donc l'anthropologue n'a pas de visée de transformation du monde, il a une visée non pas contemplative, puisqu'il est impliqué dans le monde qu'il étudie, mais il a une visée de compréhension et d'analyse au sens fort du terme. Donc toute enquête anthropologique comporte ces moments critiques, ces moments cliniques sont d'autant plus éclairants qu'en fait ils révèlent des failles de la globalisation économique, politique, imaginaire, à travers les failles intimes des sujets. Ce qui importe ici, donc, c'est les dérapages du sujet, leur sortie des chemins tracés par les mobilisations identitaires, leur mobilisation volontaire, comment celles-ci instruisent donc l'anthropologue des décrochages entre projet globalisé et projection psychique. Donc l'ensemble de ces dérapages ou de ces effondrements orientent en fait et nourrissent la critique anthropologique. Critique anthropologique, donc, des formes actuelles du capitalisme globalisé, en mettant à nu les dysfonctionnements, donc, de l'intimité. Alors, il me semble que c'est dans les champs, pour mon expérience personnelle, en fait, c'est dans les champs religieux que sont particulièrement visibles ces sortes de schizes emblématiques, qui mettent à nu l'échec de toute planification déterministe et totalisante des phénomènes sociaux. Je pourrais en donner un exemple que je vais, mais alors vraiment dresser au couteau, qui est celui des cultes des génies et donc des médiums au Laos, que j'ai commencé à étudier donc sur un premier terrain en 1993, sur lequel je suis revenue régulièrement à peu près tous les 2 ou 3 ans, et sur lequel j'étais encore donc en juillet dernier. Donc la transformation de ces cultes témoigne de transformations et de décrochages fondamentaux, donc par rapport à une société dont l'état parti est particulièrement brutal et terrorisant, dans un contexte qu'il faut décrire comme un contexte animiste. Donc avec différentes périodes de ces cultes, une première période après l'avènement du gouvernement communiste, donc une première période où les médiums disent que les génies, en gros, les génies s'opposent à l'État parce que les génies sont beaucoup plus forts que les cadres du Parti communiste. Donc c'est la période aussi où le gouvernement relâche son contrôle et cesse de stigmatiser les médiums en les envoyant dans des camps de rééducation, abandonne donc sa lutte pour ce qu'il appelle les superstitions. Donc cette première période, les médiums triomphent et les génies triomphent dans leur bouche en disant donc nous arrivons à rendre impuissants les cadres de l'État parti, et regardez, nous les rendons malades, avec une foule d'exemples très précis. Puis une deuxième période où en fait il y a une sorte d'expansion avec l'ouverture du pays au marché capitaliste, une expansion extrêmement forte de ces cultes, beaucoup de circulation d'argent, des fêtes tout à fait extraordinaires, mais qui restent extrêmement ritualisées. Et je veux dire, ce qui est important, ou je veux dire, les anciennes formes rituelles sont conservées. Une troisième période où la crise asiatique arrive en 2000, et effectivement les médiums disent plus d'argent, les génies se retirent. Alors au Laos, les génies, donc les médiums sont mariés avec les génies à travers des cérémonies. Donc les génies, les médiums disent, les génies divorcent, ils partent vers des pays où l'argent coule à flot, ils nous délaissent. Et en gros, je vous dresse ça de manière très très rapide, mais on pourrait, il faudrait beaucoup plus de temps. Et une quatrième période, celle que j'ai observée donc récemment, qui est donc une période où capitalisme chinois et capitalisme vietnamien investissent de manière forcenée au Laos, aussi bien dans la capitale que dans les différentes provinces. Construction donc d'une ville chinoise en particulier, avec 40 tours de 80 étages qui sont en train de se construire à Vientiane. Si quelqu'un connaît Vientiane, c'est tout de même quelque chose de très curieux. Et donc, énormément d'argent qui circule à nouveau dans les fêtes, mais une dérégulation tout à fait étonnante, en fait, en particulier à travers un usage démesuré de l'alcool, et surtout un côté rave party de ce qu'étaient des rituels, qui étaient donc extrêmement formalisés, je veux dire avec des danses extrêmement formalisées. Et dernier point, ces nouvelles cérémonies, ces nouveaux rituels, bien que complètement dérégulés, sont aujourd'hui particulièrement courus par les jeunes gens homosexuels, dans la mesure où effectivement il y a un blocage là très précis, à la différence du Vietnam et de la Chine, un blocage très précis des financements internationaux pour la fabrique de groupes LGBT par le gouvernement, qui est un gouvernement particulièrement obtus. Et donc là encore, ces cérémonies et les génies deviennent les lieux de refuge de tous ceux qui sont marginalisés et de tous les affects, de toutes les émotions et de tout ce qui ne peut pas se dire de manière nette. Donc encore une fois, les génies sont le langage de la sortie du pouvoir. Éventuellement, on pourra, c'est un exemple, mais là, j'ai été très très vite, mais on pourra éventuellement revenir dessus. Je vais conclure, j'ai l'impression d'avoir parlé très longtemps, donc je vais conclure. L'anthropologie critique, donc pour moi, doit être à la fois globale, politique et clinique. Elle repose fondamentalement en situation de globalisation la question du sujet, mais sous des formes nouvelles, dans la mesure où ce sont les mobilisations subjectives qui sont devenues des ressources et des moteurs premiers du fonctionnement capitaliste avec la numérisation du monde. Donc la question qui se pose, où est le sujet, son rôle, en fait, si l'on sort des anciennes, de deux anciennes, anciennes de la manipulation et des déterminismes d'un côté, anciennes de l'autocréation et de l'autonomie devenue une norme globale de l'autre. Alors juste pour évoquer par rapport à cette question du sujet, c'est-à-dire ce qu'on voit revenir au niveau philosophique actuellement, c'est ce qui se dit à travers le réalisme spéculatif, ou qu'on appelle aussi néo-réalisme, néo-matérialisme, et qui entend aujourd'hui sortir, c'est un courant philosophique, qui entend sortir de l'empire du sujet, de la conscience, du discours, du texte, de l'interprétation, du constructivisme, etc. Donc pour revenir à l'objet, à la matière, à l'ontologie de l'être, au réel indépendant de la relation, etc. Donc là, je vous renvoie donc au numéro de Multitude, numéro 65, qui a été fait spécialement sur ce réalisme spéculatif. Je cite ce courant philosophique actuel qui pointe, dans la mesure où l'anthropologie critique, de mon point de vue, ne peut pas s'appuyer sur de tels effacements du sujet et de l'intersubjectivité. À mon avis, au contraire, il est de plus en plus nécessaire de penser les nouvelles matrices de subjectivité et de collectif, puisque ces matrices de subjectivité et de collectif sont précisément propulsées au centre des fonctionnements capitalistes. Un mot pour réfléchir là-dessus. Foucault disait « la critique sera l'art de l'inservitude volontaire, celui de l'indocilité réfléchie ». Si on reprend cette proposition de Foucault, Cela nous remet immédiatement face à la conscience et par là même face à l'inconscient sur le devant de la scène, en se rappelant en fait aussi que, mais là c'est une sorte de ritournelle, mais que les programmes de Deleuze et Guattari étaient de saisir ce qui faisait les nœuds entre capitalisme et schizophrénie, et que c'est là peut-être où on peut essayer d'avancer sur les chemins de la liberté imaginés par Sartre. J'ai terminé. Merci.